Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. On est très heureux de vous recevoir sur notre table rouge laquée, incroyable, avec Traz, Julo et Raon. Ça va bien les gars?
Ouais,
très bien, parfait.
Bon, alors aujourd'hui, podcast 114 avec une belle saga, on vous l'avait promis la semaine dernière, la saga d'un développeur émérite qui nous a fait rêver avec plus de 15 jeux. Alors parmi ces 15 jeux, tous n'ont pas marqué l'histoire, mais certains vous allez les reconnaître, de Crash Bandicoot à Jak and Daxter et aujourd'hui Uncharted. D'ailleurs, Uncharted 2 qui sort aujourd'hui même, on l'a particulièrement apprécié, hein, vous le savez, et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, eh bien, il y a le test de Raon sur Gameblog.fr. Eh bien oui, on va parler de Naughty Dog, et plus précisément d'un véritable retour sur toute l'histoire de ses créateurs, qui a commencé, oulala, on dirait comme ça, genre, allez quoi, 10 ans, etc. Ben pas du tout. Ça a commencé il y a plus de 20 ans, c'était en 1986, et à l'époque d'ailleurs ça ne s'appelait pas Naughty Dog, non, ça s'appelait Jam Software, et c'était une petite société, Julo va vous en parler, qu'on appelait, c'est les jeux qu'on fait dans son garage en fait, avec deux personnes, deux hommes à leur tête de ces jeux. Et bien d'un côté Jason Rubin, la tête créative, la tête pensante, et Andy Gavin, l'homme de la technique, notre Mr. P à nous. Voilà, c'est ce duo d'amis qui ont donné naissance dès 87 à un premier jeu, Ski Crazed, sur Apple II, qui n'est pas resté dans les mémoires. Et pourtant Julo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces débuts, des trois premiers jeux de Naughty Dog de 87, 88, 89, avant que l'histoire commence vraiment?
Alors oui, tout à fait. Alors donc c'était des jeunes garçons, ils avaient 16 ans à l'époque, et ils développaient donc dans leur garage, c'est du développement en garage donc, et ils ont créé comme ça trois premiers jeux entre 87 et 89, donc Ski Crazed, Dream Zone, donc tous les deux sur dans le premier sur Apple II, pardon, ensuite sur Apple II GS, alors c'est une plateforme dont je me rappelle absolument pas perso,
mais
aussi sur Amiga et Atari ST, alors ça par contre je m'en rappelle très bien, et c'était une grande époque, n'est-ce pas? Ils ont développé un troisième jeu donc qui s'appelait Keep the Thief, c'est un mot très dur à dire quand on est français,
non pas Keep the Faith,
ouais, et qui celui-là a été édité par Electronic Arts à l'époque, donc c'était un premier gros coup pour ces deux jeunes garçons,
c'est le premier jeu qu'ils ont fait éditer professionnellement, puisque les deux premiers étaient édités, auto-édités en fait,
voilà, tout à fait, auto-financés, auto-édités
par leurs parents,
ouais certainement, enfin en tous les cas moi je me rappelle absolument pas de ces jeux, je suis désolé, je pourrais rien vous apprendre d'extraordinaire dessus. Mais donc voilà quoi, ils ont finalement réussi à trouver Electronic Arts et à faire éditer professionnellement Keep the Thief.
Ça devait déjà être quand même une sacrée récompense pour eux, parce qu'à l'époque en 89 ils avaient 19 ans, parce que tous les deux sont nés en 1970. À 19 ans comme ça, sortir un jeu édité par qui était déjà important, hein, Electronic Arts, un colosse comme ça, c'est bien.
Ah bah carrément, et puis c'est vraiment c'était une période faste pour le jeu vidéo quand même, l'Amiga et l'Atari ST, il y avait plein de trucs qui se passaient, enfin c'était
Ouais, mais il y a en fait plus de développeurs actuels assez connus aujourd'hui qui ont commencé un petit peu comme ça leur garage à faire leur truc tout seul très très jeune, parce que à ces époques-là, les plateformes type Apple II, etc., ou même l'Amiga et l'Atari ST, c'était des plateformes pour lesquelles on pouvait développer assez facilement comme le PC aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas des consoles évidemment, où il faut un kit de développement.
Ouais, je me souviens très bien quand j'avais mon Amiga, il y avait ces fameux demo makers là, qui exploitaient en fait le hardware et faisaient des démos musicales avec des trucs, des effets qui déchiraient et tout. Enfin, à l'époque, je trouvais ça génial et bon, voilà, c'était des gamins qui faisaient ça quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois premiers jeux, donc Ski Crazed, Dream Zone et Keep the Thief, c'est les trois derniers jeux console de l'histoire de
non console, ouais, tu veux dire.
Le PC, je veux dire, de l'histoire de Naughty Dog alias Jam Software. Hein,
ouais, parce qu'ils sont restés, ouais, ils sont restés avec Electronic Arts.
Enfin, micro-ordinateur, plus exactement.
Ouais, sur micro-ordinateur, tout à fait. Et après, ils sont passés donc à la Mega Drive et ils n'ont plus jamais quitté les consoles. Donc, la Mega Drive, c'était avec Rings of Power et ça a été édité encore une fois par Electronic Arts. Et là, pour le coup, c'était un jeu de rôle et qui a eu un assez beau succès. Mais la cartouche n'a jamais été rééditée, etc. Ce qui lui a conféré un petit statut culte comme ça à l'époque. Ouais.
Et alors, ce qui est important de dire, c'est qu'en 89, donc juste avant, pendant même le développement de Keep the Thief, c'est là où Jam Software s'est éteint.
Ouais.
Et est devenu Naughty Dog, rebaptisé en cours de développement de jeu. Donc en fait, le premier vrai gros jeu développé depuis le début sous la bannière Naughty Dog, c'est bien ce Rings of Power, donc sur Mega Drive.
Tout à fait.
Il y a encore des gens qui en parlent d'ailleurs aujourd'hui de ce jeu. Il est assez suivi. Il avait déjà marqué à l'époque.
Et alors c'est vraiment intéressant, là. C'est vraiment pour l'anecdote, et c'est ça nous qu'on aime bien dans ces sagas, c'est de voir qu'après ce jeu-là, donc en 89, ils ont repris leurs études.
Ouais, ils ont fini leur cycle de 3 ans à l'université. Ouais.
À l'époque, ils avaient 21 ans, donc Jason et Andy reprennent leur cursus universitaire. Et du coup, pendant 3 ans, la société Naughty Dog est en stand-by total. Il n'y a pas de jeu qui sort.
Je pense que papa-maman ont dit, oula, attendez là, vous faites des jeux, d'accord, mais d'abord, vous passez votre bac, hein, tout ça, et les études d'abord.
Mais c'est intéressant parce qu'ils avaient le vent en poupe, ils commençaient à signer avec des gros, ils commençaient à faire des jeux effectivement dont on commençait à entendre un petit peu parler dans la communauté gamer, et ils ont pris le pari de tout bien finir. L'avenir montrera que finalement ils ont bien choisi.
C'était surtout très
Sauf à leur retour,
entre guillemets, couillu à l'époque de se lancer dans ce genre de truc. Hein. Ouais. On sait qu'on a eu d'autres personnes comme David Perry, etc., qui ont effectivement commencé dans leur garage, comme on dit,
mais et qui ont moins bien fini.
Voilà, je pense qu'il s'en sort quand même pas mal, David Perry.
Oui, il s'en sort très bien.
Financièrement parlant, ça doit aller, pas de soucis. Mais après, créativement parlant,
mais c'est vrai que c'était l'époque où effectivement on a un peu des pionniers du jeu vidéo. C'est vrai qu'on adore cette époque là parce qu'on se dit, mais comment ils ont fait ces mecs là, ils avaient vraiment ils étaient couillus quoi.
Ouais, ils étaient là dès le début, puis ils sont lancés sans se poser de questions quoi.
Sans se poser de questions, c'est peut-être d'ailleurs ce qui s'est passé avec Way of the Warrior, jeu après leur retour de leur cursus universitaire. Alors était-il un petit peu rouillé ou pas, on ne sait pas. Alors est-ce que vous vous rappelez, c'était un jeu qui est sorti sur 3DO, édité par Universal.
Première erreur.
Un jeu de baston.
La 3DO.
Qui était filmé en fait. C'est-à-dire que tout avait été. Les personnages étaient un peu à la Mortal Kombat.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et Street Fighter, etc. À l'époque, c'était très à la mode de digitaliser les choses. Voilà.
Mon Dieu.
Et donc, bon, déjà, c'était la mauvaise plateforme. Elle avait eu à l'époque aux États-Unis. Elle était assez attendue parce que c'était aussi une des premières consoles américaines.
Américaine.
Donc, c'est légitime, si tu veux, de se dire bon, on va développer des jeux sur une console américaine pour des développeurs américains. Mais
avec
effectivement, ils ont bien fait 2 ans plus tard de passer à la PlayStation quoi.
Et justement Trace de Souligny avait raison,
c'est
Trip Hawkins
qui avait lancé ça,
ouais.
Celui qui a fait Electronica,
exactement.
Trip
comme
Hawkins.
Quoi, il n'y a pas de hasard.
Et bien justement, néanmoins, cette rencontre avec la 3DO, c'est leur premier jeu édité par Universal, et c'est aussi le début d'une belle histoire quand même, parce que derrière Universal leur fait confiance et leur signe un contrat, une sorte de deal de 3 ans pour développer un nouveau jeu, un gros jeu, en tout cas c'est ce qu'espérait Universal. Du coup là il y a un déménagement parce que finalement ça va être le premier gros jeu professionnel de la part de Naughty Dog.
Dans un vrai studio.
Fini les garages.
Avec une véritable équipe.
Des vrais employés.
Ouais. Exactement. Donc ils partent de Boston, là où ils sont nés, et ils ont commencé un petit peu leur carrière. Ils partent en Californie, ça va, hein, sous le soleil de Californie, on est pas mal.
Qui est devenu après l'Eldorado de plein de choses.
Orange County, ouais.
Clairement, pour le jeu vidéo et puis pour tellement d'autres choses. Ouais. Et donc là, voilà, ça y est, ils commencent à embaucher du monde. Et en fait, en 96, naît, et donc quelques années avant en termes de développement, Crash Bandicoot. Et alors là, une étoile est née.
Bah c'est le premier jeu que tout le monde connaît de Naughty Dog, je pense, parce que c'est vrai que ceux d'avant, bon, fallait déjà être là à l'époque et fallait jouer sur ces machines là mais alors Crash Bandicoot, c'est aussi une figure qui est associée avec une console qui a marqué tout le monde, qui est la PlayStation. Donc un jeu de plateforme, donc en 3D, pour ceux qui ne connaîtraient pas Crash Bandicoot. À l'époque, dans la transition entre la 2D et la 3D, les jeux de plateforme étaient très 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 forts. C'était un genre hyper couru, avec Mario, avec Sonic, avec plein de choses comme ça. Et Crash est du coup devenu un peu officieusement la mascotte que Sony cherchait.
Justement, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est un peu le paradoxe. Ça a été monté par Sony effectivement comme un jeu phare de la console. Mm-hmm. Donc,
on est né en plus au tout début, hein, pour l'Occident, en tout cas de la PlayStation en 96.
Mais paradoxalement, ce personnage-là n'est jamais devenu la mascotte officielle de.
Mais en fait,
de
si
Sony,
je me souviens bien, Sony ne voulait pas associer déjà de mascotte à sa console parce qu'il voulait lui donner une aura plus adulte, etc. Mm-hmm. Et puis de toute façon, c'était pas une marque qui leur appartenait complètement. C'était une marque qui
appartenait à
Naughty Dog, et voilà, et qui développait ça avec Universal. Donc
tout à fait, Julo.
Et c'est peut-être justement de là qu'est née l'envie, un petit peu plus tard, on va y revenir, de faire de Naughty Dog un éditeur à part entière de chez Sony. Et ça se passera en 2001, mais on va revenir quand même un petit peu plus sur Crash Bandicoot, parce que à l'époque quand même, c'est aussi une vraie révolution. Hein. Ça veut dire qu'en termes visuels, déjà on s'est pris une jolie baffe.
Ouais.
C'était super bien réalisé, il y avait une ambiance assez incroyable. Et puis c'est vrai que la PlayStation, qui misait sur un public un petit peu différent que Sega et Nintendo, là arrivait dans quelque chose qu'on connaissait un peu plus, la plateforme, le maîtrisait bien. Finalement, ça rappelait aussi un petit peu les rouages d'un Donkey Kong Country, avec cette grande map dans laquelle on se déplaçait pour passer de niveau en niveau, avec des systèmes connus de tous, hein, les petites cases à taper, on avait un masque, et puis comme ça, on pouvait avancer dans l'aventure. Les vues aussi, rappelez-vous ces niveaux où c'était des niveaux de course,
oui,
où Crash
Alan
était
Indiana
face
Jones,
à soi,
un petit peu,
exactement, ouais.
Ouais.
Trace, tu peux nous...
Oui, c'était génial ça, effectivement. Moi, je me souviens plus ce qui nous coursait derrière.
Je crois qu'il n'y en avait pas dans le premier.
C'était
vraiment un
Indiana Jones, tout simplement, voilà.
Une énorme roche.
Exactement.
Et on courait vers le joueur, en fait.
Oui, tout à fait. On courait vers la caméra, enfin vers l'écran. Et avec ce jeu de plateforme, effectivement, on pouvait dire à l'époque que la PlayStation était capable de tout faire, quoi. Pas seulement des jeux de course hyper fluides, pas seulement des jeux de sport ou de foot, pas seulement des jeux de baston, pas seulement des RPG extraordinaires, mais aussi de la plateforme qui était en général plutôt l'apanage de Nintendo, quoi, qui était très fort avec Mario et compagnie.
Et
donc là, ils pouvaient tout faire.
Et la force, et c'est pour ça aussi que le jeu s'est vraiment fait remarquer, c'est la finesse, le personnage emblématique, mais la finesse du gameplay. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont essayé de rivaliser avec Nintendo sur comment faire qu'un personnage saute bien, qu'il y ait une bonne réponse au niveau des timings, des sauts, des bonus, un bon équilibre dans un jeu de plateforme. C'est pas si évident que ça. Et justement, Crash Bandicoot l'avait très bien réussi. Hein.
Ouais, et dès le départ, justement, et c'est en partie grâce à ça qu'ils ont réussi à obtenir cette finesse de gameplay, c'est que Naughty Dog, dès le début et dès ce jeu-là, était déjà très concentré sur la qualité de l'animation.
Ouais.
Et c'est vrai qu'à l'époque, en 3D, Crash bougeait super trop bien, quoi. C'était incroyable. Il avait en plus des animations de mort.
Quand il bougeait pas,
à pleurer de rire.
Exactement.
C'était une ambiance vraiment radicalement différente des autres jeux de plateforme. Et techniquement, ils étaient vraiment très 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 au point. C'était vraiment fin, coloré, bien.
C'est surtout ça qui s'était aux yeux d'ailleurs. C'était le niveau technique atteint par ce jeu, c'était presque du jamais vu, quoi, pour un type de
pour un jeu de ce type-là.
Ah, c'était vraiment un jeu de deuxième génération de la PlayStation, hein, déjà dès 96. Et puis alors il y a quelque chose aussi qui a contribué vraiment à la légende des Crash Bandicoot, hein, qui aura connu énormément de suites derrière, développé par Naughty Dog et depuis après par Universal, mais on va y revenir. C'est quasiment le seul jeu occidental de l'histoire à avoir réussi à s'imposer au Japon, puisque si dans la saga Crash Bandicoot au global, sur les 4 épisodes cumulés développés par Naughty Dog, ils s'en est quand même vendu 22 millions d'exemplaires, c'est quand même un succès incroyable, ils en ont vendu plus d'un million d'exemplaires au Japon. Et ça, aucun autre jeu n'a réussi à le faire, en tout cas quand on vient des États-Unis ou de l'Europe. Hein.
Ouais. Et c'était une des grosses fiertés de Jason Rubin, justement, qui a planché beaucoup, beaucoup sur le personnage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, l'esthétique des personnages est primordiale. Et surtout, les Japonais répondent pas aux mêmes choses, quoi. Par exemple, Abe.
Qui sortait à peu près à la même période.
Voilà. L'Odyssée d'Abe à l'époque a été en tous les cas au niveau critique bien reçu par tous les occidentaux, mais au Japon un espèce d'alien avec la bouche cousue, etc. C'était juste horrible, quoi. Alors que le Bandicoot de Crash, enfin Crash donc, était très bien réceptionné, et c'est quelque chose qu'ils ont reproduit plus tard quand ils se sont mis à développer Jack, sur lequel on va revenir. Ils ont énormément travaillé, c'est ce qu'ils expliquaient à l'époque quand ils nous avaient présenté le jeu pour la première fois. Donc cette nouvelle licence Jack and Dexter, que Jack et le Dexter qui est une espèce de petite bestiole avait été focus testé vachement au Japon aussi pour être sûr de pouvoir reproduire ce succès de Crash Bandicoot partout, quel que soit le territoire, quoi.
Ce qui n'a pas marché,
ce qui a moins bien marché,
moins bien marché.
Mais c'est toujours complexe, hein, de comprendre pourquoi finalement un personnage fonctionne et l'autre un peu moins,
et surtout d'en trouver
sur un territoire ou pas,
surtout de trouver un design qui plaise à tout le monde. Ça c'est super dur, quoi.
Exactement. Alors au fil des années, hein, du coup après c'est aussi un peu devenu une cash machine, donc forcément chaque année nouvel épisode. C'est allé très vite, hein. 96, donc sortie du premier Crash Bandicoot, 6 millions d'exemplaires rien que pour ce premier épisode vendu dans le monde. L'année suivante, 97, Crash Bandicoot 2, 98, Crash Bandicoot 3 Warped, qui marque le dernier épisode, on va dire, vraiment plateforme développée par Naughty Dog, avec justement une petite anecdote. Dans le 26e niveau de ce Crash Bandicoot 3 Warped, et bien la présence d'un niveau qui s'appelle Ski Crazed. Et si vous avez été attentif en tout début de podcast, Ski Crazed, c'est le tout premier jeu de Naughty Dog, enfin à l'époque Jam Software.
Voilà.
Il y avait beaucoup de références dans leur jeu, ils cachaient beaucoup de choses, notamment aussi vis-à-vis des jeux d'autres studios amis, parce que
comme Insomniac notamment
Insomniac, qui faisait Spyro à l'époque.
Spyro
justement, c'est là où je voulais en venir, avant de passer à la suite de l'histoire de Naughty Dog, avant de passer à Crash Team Racing, qui a été la dernière rencontre entre Naughty Dog et le personnage de Crash, dans un univers radicalement différent, puisque cette fois-ci c'était de la course automobile, plutôt ambiance karting. Et parlons un petit peu de cette relation de Naughty Dog avec d'autres développeurs américains, puisque c'est assez particulier, c'est quelque chose que malheureusement on a assez peu en France. On a pu l'entendre récemment avec l'interview de Christophe Balestra, le désormais co-président de Naughty Dog, qui, aux États-Unis, ils travaillent un peu tous ensemble, ils se partagent des technologies, ils se visitent les uns les autres pour essayer de tirer vraiment le média vers le haut. C'est un peu plus complexe en Europe où les gens protègent un petit peu plus les choses.
Au Japon aussi. Hein.
Et au Japon aussi, clairement. Mais en tout cas, Naughty Dog avait une relation vraiment privilégiée avec un autre éditeur, un autre créateur, qui justement, ils avaient déménagé tout proche l'un de l'autre à Santa Monica. C'était avec les gars de Insomniac Games.
En particulier Ted Price.
Ted Price, voilà.
Ted Price qui était le cofondateur de Insomniac et qui à l'époque, en fait, ils faisaient presque même aussi tous leurs événements ensemble en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'ils lançaient leurs jeux ensemble, ils rencontraient la presse ensemble, ils faisaient tout ensemble.
Tout est sûr.
Et ils faisaient presque des jeux assez proches finalement, parce que d'un côté il y avait Crash, de l'autre il y avait Spyro,
qui
utilisait un peu
coloré. Tout ça, ouais,
mais lui qui était en ce qu'on appelle en full 3D, enfin on pouvait vraiment diriger partout, alors que Crash quand même est toujours un jeu qui est resté cantonné dans
un peu 3D ISO.
C'est ce qu'on appelle 2,5D. 2,5D, ouais.
2,5D.
Ouais, voilà, c'est ça.
Exactement.
C'est l'essentiel des niveaux était en vue sur le côté, sauf dans le dernier, si je me souviens bien, il y avait plus de niveaux où tu allais dans la profondeur de l'écran. Mais le plus premier, c'était en vue de côté en tout cas.
En vue de côté ou en vue de. Comment on pourrait appeler
de
ça
face.
De face ou. Enfin, tu courais dans le fond de l'écran ou tu courais vers le début de l'écran.
Ce qui s'est démocratisé dans les épisodes 2 et 3. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait trouvé le premier super beau et tout, ça on l'a déjà dit, mais les deux suivants ont réussi à aller encore plus loin, à pousser encore plus la machine, et le dernier était vraiment sublime.
On a déjà parlé dans les podcasts de Gameblog de certains titres qui avaient poussé la première PlayStation dans ses retranchements. Je pense par exemple à Tobal 2, grâce au Profiler, l'outil de développement que Sony avait fourni 2-3 ans après le lancement de la PlayStation pour vraiment savoir où est-ce qu'on pouvait optimiser les textures, la vitesse d'animation, etc. Et justement, les Crash l'avaient utilisé à l'envi. Et ça faisait partie des jeux qui utilisaient à 100% la PlayStation, quoi.
C'est vrai. Et donc après, ils ont commencé à vouloir changer. Donc ils sont arrivés. On est en 99 avec Crash Team Racing, qui était donc en gros un Mario Kart like.
Oui, tout à fait.
Mais très réussi.
Alors moi, je trouve que c'est pas vraiment un Mario Kart like, mais plutôt un Diddy Kong Racing like. Parce que la structure même du jeu, en fait, c'était une sorte de grand hub dans l'univers des Crash Bandicoot. Et on se déplaçait avec son petit karting et on allait ouvrir comme ça des zones. Et il y avait énormément de visites d'exploration dans le jeu. Moi, c'est ce qui m'avait vraiment, j'avais vraiment apprécié. C'est-à-dire que, certes, ça reprend tous les poncifs de jeux déjà connus, mais finalement, Crash Bandicoot n'avait pas inventé grand-chose non plus, mais le faisait très bien. Et ce Crash Team Racing, c'était un peu la même idée. Faire reprendre très bien des concepts et se les approprier dans l'univers de Crash. Moi, j'avais beaucoup apprécié le jeu. Je trouvais que la conduite était bonne. Il y avait un système de boost qui était plutôt ingénieux, Traz.
Oui, c'est vrai. Enfin, j'en ai pas forcément un souvenir extraordinaire parce que justement, il y avait Mario Kart à côté, donc c'était un peu difficile de rivaliser, très honnêtement. Mais effectivement, là où ils ont voulu nous emmener, je pense qu'ils ont réussi parce que c'était ultra fluide. Techniquement, c'était magnifique. Je me souviens très bien qu'on était, mais abasourdi par tant de beauté presque technique, enfin que technique et visuelle. Ils avaient réussi à faire un truc vraiment extraordinaire, quoi. Pour des gens qui faisaient que de la plateforme, pour un premier essai, c'était un coup de maître, quoi.
C'est pas du tout le même genre de jeu.
Exactement,
quoi.
Ça n'a rien à voir. Et ils avaient réussi à transposer justement le gameplay de Mario Kart avec la technologie de la PlayStation et puis tous les trucs à côté qu'ils pouvaient mettre dans l'univers de Crash Bandicoot, etc., quoi.
Et alors, je sais pas si tu te rappelles à cette époque-là, mais on avait eu la chance de pouvoir rencontrer Jason Rubin et Ted Price justement dans un bon restaurant parisien.
C'est quand on a fini aux Trois Maillets.
Exactement, on est allé au Procop au début.
Il a dansé sur les tables.
Et
d'ailleurs, il avait pas les cheveux longs, Jason Rubin, à l'époque.
Non, il avait déjà les cheveux courts. Toute l'époque des Crash Bandicoot, il avait déjà les cheveux courts.
Je pensais. Bon, bref.
Et alors, justement, on papotait, ça c'était une belle soirée, riche en anecdotes qu'on pourra pas toutes vous révéler malheureusement ici. Mais c'était très sympa. C'était complètement hors du cadre de la promotion ou quoi que ce soit.
Exact.
Et puis du coup, forcément, on les avait un peu travaillé. Il y avait quand même le début de la PS2 qui avait commencé à arriver. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'ils nous avaient dit, voilà, Crash Team Racing sera notre dernier jeu avec Crash. Après, on va le laisser vivre sa propre vie et le libérer, le laisser à Universal, qui d'ailleurs a récupéré les droits en 2001.
Tout à fait.
De manière
en même
définitive.
Temps, en même temps que le rachat du studio, le rachat total du studio, qui était à l'époque ce qu'on appelle de la second party, c'est-à-dire qu'ils développaient que pour les plateformes Sony, mais ils appartenaient pas à Sony. Alors, ils étaient en partie avec eux, mais ils ont été rachetés donc en 2001 aussi par Sony, et c'est à ce moment-là qu'ils ont cédé la licence entièrement à Universal.
Et c'est donc là où on les a rencontrés, on papotait, mmh. et c'est là où la première fois, alors qu'on ne savait rien encore sur Jack and Dexter, ils nous avaient parlé de leur velléité, leurs envies de faire un jeu là totalement libre, dans un grand univers, avec un personnage, moi je m'en rappellerai toujours, ils nous avaient dit, un personnage, tu verras, il aura des petites armures sur lui, il pourra sauter, puis il aura un pote avec lui, mais ah, on ne peut pas vous en dire plus. Et ça c'était en 99 quoi, et pourtant. Alors que faisait des jeux tous les ans, ben là il a fallu attendre 2 ans puisque Jack and Dexter n'est sorti finalement qu'en 2001 sous-titré The Precursor Legacy. Et là aussi, moi je me rappellerai éternellement ce premier E3 où on a vu les premières images avec ces effets de chaleur sur les flammes, les torches, ouais, les niveaux énormes, la verdure. C'était super impressionnant quand même.
Moi j'avais adoré ce premier jeu. Il y en a, alors c'est une série de Jack qui a beaucoup changé par la suite, hein, on va le voir avec les autres épisodes, mais c'est vraiment le premier jeu sur lequel j'ai vraiment trippé, mm-hmm. Plus que les autres. Et c'est pour l'anecdote aussi un des jeux, comme il le dit dans l'interview, que Christophe Balestra à l'époque en tant que joueur, hein, parce qu'il n'était mm-hmm. pas encore chez Naughty Dog, a particulièrement apprécié, ce qui lui a donné envie à lui de d'envoyer son CV là-bas pour travailler chez Naughty Dog. Et donc aujourd'hui il en est le coprésident avec Evan Wells. Donc ça a été un jeu marquant en tous les cas pour le studio, et effectivement un premier jeu qui était une fois de plus techniquement particulièrement bien fait, propre, nickel.
Et c'est intéressant justement pour vous montrer aussi à quel point finalement derrière les jeux il y a avant tout des hommes, et souvent des équipes plus resserrées qu'on ne le croit, en tout cas au niveau des créatifs, des gens qui prennent vraiment les lourdes décisions. Sur ce Jack and Dexter, il y avait aussi Didier Malenfant, oui. qui aujourd'hui est aussi le co-président de Ready at Dawn.
Il avait travaillé aussi, je crois, sur Crash Team Racing.
Ouais, tout à fait.
Aussi.
Mais lui, là, il s'occupait vraiment de toute la partie créative, et c'était... ils étaient à fond, quoi, tous. Vraiment, je m'en rappelle encore, quand on leur parlait de Jack, ils ont donné tout ce qu'ils avaient au fond d'eux. Ils ont énormément étudié les autres jeux du même style. Les Mario 64 revenaient à peu près 15 000 fois dans leur bouche. Mais en tant qu'hommage, plus qu'en tant qu'on a essayé de prendre des idées ou machin. Mais vraiment, ils ont apprécié ce jeu-là. Et d'ailleurs, juste, je reviens rapidement sur Crash Bandicoot. Rappelez-vous, c'est l'une des premières fois où aussi on avait vu Miyamoto jouer à la PlayStation.
Ah, c'est vrai.
Exact.
C'est vrai.
Puisqu'il avait joué à Crash Bandicoot, mm-hmm. parce qu'il avait été lui-même impressionné. Et c'est vrai que Jason Rubin et Andy Gavin à l'époque nous avaient dit leur fierté d'avoir un Miyamoto qui leur disait chapeau pour votre jeu quand même.
Ah,
c'est
un peu la classe. Ça se comprend quand même.
C'était pendant l'E3, ça, c'est ça.
Ouais, tout à fait.
2001.
Ouais.
C'était ce qui se comprend. Oui, ça se comprend, ouais.
Alors qu'est-ce qu'a apporté un petit peu ce Jack and Dexter au-delà du visuel?
Alors, c'était un jeu plus mature déjà à tous les niveaux, hein, pas seulement dans l'univers.
Avec des personnages très étranges.
Alors on contrôlait Jack qui avait son sidekick Dexter, et c'était donc un jeu plus mature en termes de game design comme en termes d'univers, même si ça restait quand même assez enfantin globalement. Il y avait déjà des cinématiques avec des dialogues, c'était un univers très ouvert.
Avec des dialogues mais tous ne parlaient pas.
Oui.
Jack était sacrément muet quand même.
Effectivement. Mais ça faisait partie du design d'ailleurs. Ça restait un jeu de plateforme exploration, un peu action-aventure on dirait aujourd'hui quoi. Mais avec beaucoup beaucoup de passages plateforme quand même. Donc tout un héritage de ce qu'ils avaient déjà fait sur Crash, mais aussi cet aspect ouvert qui était quand même incroyable à l'époque, où il y avait une distance de vue sur certains niveaux qui était particulièrement impressionnante, tout ça avec des astuces un petit peu de programmation. Mais ce qui était déjà, et ils en étaient très fiers à l'époque, c'est que tout ce qu'on pouvait voir dans un niveau, on pouvait y aller à un moment ou à un autre du jeu. Donc c'était vraiment une expérience intéressante, assez longue, avec un scénar sympa, un univers un peu barré, original, qui faisait pas forcément penser à grand chose d'autre en fait, qui avait vraiment une véritable identité, je l'ai trouvé en tous les cas, et puis bon, qui a beaucoup évolué par la suite. Voilà.
Je te sens presque même un peu déçu par cette évolution, et moi je la partage un petit peu.
Un petit peu. J'avais beaucoup, vraiment très attaché au premier, qui avait pour moi une formule quasi parfaite, et par la suite ils ont tenté d'autres choses, donc on peut pas trop leur reprocher, mais j'ai moins accroché,
mais
c'est
plus
vrai,
action,
aux deux ou trois,
très
voilà,
clairement.
Plus action et plus moderne aussi dans l'univers, parce qu'il y avait un côté un peu pas fantasy, mais un peu conte.
Île perdue, dans lequel.
Ouais, il y avait moins de technologie en fait. C'était moins steampunk que les autres, quoi, où ils ont fini à faire carrément des villes avec des speeders, etc. Presque limite Star Wars dans le.
Et un peu GTA, on pouvait choper les gens sur leur speeder, justement, les enlever, remettre dessus. Avec une importance énorme de la carte, hein, justement, parce que les mondes étaient gigantesques, par contre. Mais vraiment, démesuré.
Ouais.
Voilà.
Moi, j'avais moins accroché, mais il y en a d'autres qu'on préférait. Hein. Et puis, en parallèle, c'est marrant aussi de voir que, toujours de leur côté, parce qu'ils ont toujours été très proches d'Insomniac, c'est aussi à ce moment-là que Insomniac a lâché Spyro, de la même manière, pour faire après les premiers Ratchet & Clank, quoi. Voilà, à la même époque, avec un trip un peu similaire d'ailleurs.
Leur jeu était beaucoup. Moi, j'avais rencontré Ted Price à l'époque de l'annonce du premier Ratchet & Clank, et c'est vrai qu'ils étaient très très proches à ce moment-là. Et comme vous disiez, quand vous les avez rencontrés tous les deux avant de lancer ces deux projets-là, ils sont partis dans des trucs assez similaires. C'est du buddy game, comme il y avait Buddy Movie. Ouais. Voilà, c'est un héros et son acolyte qui a quasiment autant d'importance. En tout cas, il porte toute l'importance comique du scénario, etc. Et des scènes cinématiques très inspirées de la bouche de Ted Price, par évidemment tous ces films de Disney, notamment les Pixar, dont il voulait reproduire, tu vois, avec comme ça tout le talent de la mise en scène et de l'humour que ça pouvait véhiculer, et de toute l'atmosphère que ça pouvait donner au jeu, quoi. Et ça, pour eux, c'était super important, et c'est un truc sur lequel ils ont continué à travailler après, et encore aujourd'hui sur Ratchet & Clank.
Et c'est amusant aussi de voir à quel point ils sont jamais en frontal les uns avec les autres. Souvent, ils sortent une année, puis c'est autour de l'autre de sortir, etc.
Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait des clins d'œil tout à l'heure aussi, mais dans je sais plus quel Jack, non, c'était dans Crash Bandicoot, tu pouvais débloquer une démo du jeu d'Insomniac, où c'était, je sais plus,
ils ont fait des trucs chacun de leur côté,
exactement. Ou dans un Jack, tu pouvais voir aussi un comment on appelle ça,
un poster de
Ratchet & Clank.
Ouais, tout à fait.
Ouais, tu pouvais, enfin, t'avais des clins d'œil comme ça partout entre les deux jeux, quoi. Ils étaient vraiment potes.
Je pense qu'en fait, ils s'aimaient.
Ils s'aimaient d'amour et d'eau fraîche.
Mais il y a eu des théories pour Jack and Dexter.
Justement, ouais, c'est vrai, là, je voulais rebondir sur quand j'ai dit les personnages un peu bizarres.
Alors, quelles sont-elles, Raon?
C'est très étrange comme théorie.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Dexter, en fait, à la base, c'est pas une bestiole. Il s'est retrouvé bestiole parce qu'il s'est pris un sort, enfin, un truc.
Il est tombé dans un liquide noir.
Je sais plus exactement.
L'écho.
Ah oui, c'est ça, voilà. Et que donc au départ, c'était juste le meilleur ami de Jack, et ils étaient tous les deux humanoïdes.
Et qui dit meilleur ami?
Et il y a des on va pas dire des allusions, mais il y a des moments où on peut se demander si on pas un peu gay tous les deux. Alors on lui a posé la question à Jason, je sais plus si c'était avec toi Julien ou pas, mais
c'est quand tu l'avais revu avec Angèle, je crois.
Oui, ouais, il me semblait aussi que c'était ça.
On lui a posé la question de savoir si c'était pas effectivement un couple, le premier couple gay du jeu vidéo. Il a jamais vraiment voulu répondre.
Ouais, c'est ça, exactement.
Vous pensez ce que vous voulez.
Il a pas répondu.
Qui
n'est du mot qu'on sait.
Alors justement, après ce premier Jack en 2001, sa suite en 2003, et puis ce Jack 3 en 2004, Jack 3, ça marque le dernier épisode, une page se tourne, puisque c'est Jason Rubin quitte Naughty Dog.
Claque la porte, super violemment.
Non,
je déconne.
plutôt assez calmement, mais je pense que peut-être qu'il avait aussi l'impression d'avoir un petit peu fait le tour, après deux séries vraiment... qui avait cartonné aussi quand même dans le monde.
Exactement.
Qu'est-ce que vous pensez justement quand on arrive comme ça après avoir créé deux personnages aussi forts? Est-ce qu'on a besoin de souffler? Est-ce qu'on a besoin de faire autre chose? Parce qu'on va vous parler un petit peu de la nouvelle vie de Jason Rubin et Andy Gavin, parce que les deux quand même marchent toujours en symbiose d'ailleurs.
Ouais, ils travaillent d'ailleurs encore aujourd'hui ensemble, on va y revenir. Mais je pense que Jason, du peu qu'on l'a pu le côtoyer un petit peu... Quoi? Qu'est-ce que tu penses?
Non, rien, l'instant.
Ok. Du peu qu'on a pu le côtoyer un peu, il a toujours eu plein d'autres passions en fait dans la vie, notamment les comics, la musique, plein de choses. Et il avait peut-être. Il faut savoir déjà qu'à l'époque, avec tout ce succès, ils étaient au niveau pognon, ils étaient blindés de chez blindés. Donc ils avaient vraiment l'opportunité de faire exactement ce qu'ils voulaient.
Voilà, exactement.
Si un truc les soulait,
c'est surtout ça en fait. Ils avaient la liberté d'aller où ils voulaient, ce qu'ils voulaient. Et je pense que comme tu disais, Julien, ils ont fait le tour. Et puis voilà, au bout d'un moment.
Peut-être, mais en même temps, ils sont revenus au jeu, là.
Justement, on va en parler parce que souvent, vous nous envoyez des messages. Vous savez que sur Gameblog, on aime bien mettre en avant les créateurs. Et Jason Rubin, c'est un créateur visiblement qui vous a marqué. Et souvent, vous voulez savoir un petit peu ce qu'il devient, etc., avec Andy Gavin. Il a fallu attendre. Il y a eu une petite période un petit peu calme, où il a profité un petit peu de la vie aussi.
Ouais.
Et puis, en avril 2007, il a lancé Flector. Alors, Flector, c'est une sorte de site de partage de vidéos et de photos un petit peu à la YouTube.
Vous pouvez retrouver ce que Flector faisait sur MySpace maintenant. Mm-hmm. Parce que la technologie qu'ils ont développée à l'époque a été récupérée par MySpace pour faire notamment des slideshows de vidéos et de photos et de trucs. C'est-à-dire quelque chose d'un petit peu... ça peut paraître un peu manquer d'ambition par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant, mais en tous les cas, ça a très bien marché à l'époque et ils ont eu le nez creux quand même, puisqu'ils l'ont revendu un mois plus tard.
Ça a été lancé en avril 2007 et un mois plus tard, ils le revendent à Fox Interactive pour quand même, selon les rumeurs, 20 millions de dollars.
Voilà. Donc je pense qu'ils n'ont pas perdu leur temps, à mon avis, les deux là.
Non.
Donc,
Donc c'était voilà, petite bien. Start-up,
ah ouais,
un mois après le lancement du machin de la start-up, ouf, 20 millions et on va faire autre chose.
Et puis en janvier 2009, bah, y a pu hein, en plus.
Non, en fait, le site lui-même a fermé, mais sa technologie a été réutilisée dans d'autres trucs qui appartiennent à Fox, notamment MySpace, etc.
Alors justement, tu parlais tout à l'heure du goût de Jason Rubin pour d'autres médias, d'autres styles, les comics par exemple, puis aussi tu pourrais parler de la musique, puisque tu as eu quelques bons moments avec Jason ouais. Rubin aux États-Unis.
Ça, c'était justement à l'occasion du premier voyage qu'on avait fait pour aller voir Jack la toute première fois à Los Angeles. Et on a fini par se faire une soirée chez lui, en fait. Il habite, et je crois qu'il habite d'ailleurs toujours sur les hauteurs d'Hollywood, hein, dans les quartiers.
Beverly Hills, c'est ça?
Non, c'est pas Beverly Hills. Ça doit être North Hollywood, je crois, je sais plus exactement où, mais pas très loin de Mulholland Drive et tout ça, dans les hauteurs, là où il y a les lettres de l'autre côté, en fait.
Ça brûlait.
Et pendant la soirée, c'était une soirée barbecue, machin, à la con. C'est un gros fan de métal, en fait, Robin.
Et comme Mr. P.
Et à un moment, on s'ennuyait plus ou moins pendant la soirée parce que ça restait une soirée un peu professionnelle, machin. Et la bière aidant, tout ça, on a fait péter le
avec modération.
C'était à l'époque, je crois, le premier album de Slipknot, à fond les ballons dans tout Hollywood. juste pour montrer qu'il avait une putain de chaîne de la mort. Oui, c'est quand même un grand gamin aussi. Le Rubin, et donc en tant que passionné de comics, après un petit peu plus ou moins en parallèle de Flector, il a lancé une première série de comics pour laquelle il était scénariste qui s'appelle
Iron and the Maiden.
C'est ça, Iron and the Maiden.
On sent la référence.
Ouais, une référence au métal, publié chez Aspen, sur laquelle a travaillé beaucoup de dessinateurs différents, dont un certain Joey Madureira ou Joey Mad pour les intimes, qui, de manière amusante aussi, est aujourd'hui le co-fondateur et le directeur artistique de Vigil Games, qui va nous faire Darksiders chez THQ dans pas très longtemps là, qui a l'air de bien se présenter d'ailleurs. Et donc il y a eu plusieurs volumes de ce comics, il en prépare un autre, il continue en fait à faire du comics en parallèle de ses autres activités. Donc c'est un truc, c'est vraiment l'activité passion quoi, tu sais, il fait vraiment pas ça pour l'argent du tout, même s'il a des contrats avec des éditeurs qui sont assez connus aux États-Unis comme Aspen ou Topco maintenant avec sa prochaine série, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, comment est-ce qu'elle s'appelle,
Mysterious Ways.
Voilà, c'est ça, Mysterious Ways.
6 épisodes édités par Topco.
Exact. Donc il fait plusieurs choses en parallèle et puis ils ont refondé une petite boîte.
Voilà, c'est ça, c'est le retour aux jeux vidéo dont tu parlais. C'est effectivement après les comics, après Flector, donc voilà. Plus de l'internet.
Donc Flector, il l'a fait bien avec Andy, son Andy Gavin, son pote de
son
toujours. Et là, ils ont refait une boîte encore, toujours avec Andy, pour revenir au jeu. La boîte s'appelle
Monkey Gods,
voilà. Mais par contre, c'est inutile pour l'instant, en tous les cas, de chercher ce qu'ils vont produire sur les consoles qu'on a maintenant, puisque c'est du jeu plutôt casual sur iPhone.
Ils surfent sur la vague, effectivement, iPhone et tout ça.
Est-ce que justement, voilà. Vous trouvez pas qu'en ce moment, finalement, ils ont plus recentré leur activité vers un peu du business, vers ce qui marche, plus que sur la création pure et donc les jeux vidéo?
Faudrait leur poser plus la question, mais c'est sûr que faire du casual et de l'iPhone aujourd'hui, t'es obligé de penser un petit peu que c'est de la tendance, mais je pense que c'est surtout qu'ils n'ont pas forcément envie de se relancer sur la génération actuelle dans des développements qui vont prendre
3-4 ans.
Boîte, pendre 3-4 ans de taf sur une boîte où il va falloir embaucher 100 personnes.
Il faut trouver
ils
des investisseurs, des machins, et
ils
peuvent s'auto-financer, mais voilà. C'est quand même un paquet de pognon énorme pour développer un vrai jeu, entre guillemets.
Mais au bout d'un moment, tout ce qui est créativité et tout ça, ça s'épuise aussi. Hein. Je veux dire, si tu te ressources pas un minimum, t'as plein de gens à qui c'est arrivé. Hein. Qui créent plein de trucs. David Perry, il a créé quoi là?
À part rien,
des trucs, MDK et tout ça.
N'oublie pas Hunter the Matrix.
Même Peter Moulineux, il commence un peu à lâcher le truc.
Ah, il change de sphère aussi, Peter Moline.
Voilà, donc au bout d'un moment, voilà quoi.
Je sais pas si c'est une crise créative, moi je pense qu'ils ont surtout pas envie de se prendre la tête à refaire une boîte énorme. Parce que à l'époque où ils faisaient encore du jeu pour Sony, c'était encore entre guillemets à dimension humaine, ce qui est très difficile à garder aujourd'hui quoi. Même si Naughty Dog a brillamment réussi et qu'il y a d'autres développeurs qui réussissent à garder cette culture d'entreprise un peu familiale, c'est quand même super dur et c'est même peut-être ce qu'il y a de plus dur quand tu fais une boîte comme ça, sur des projets aussi lourds, aussi intenses, où il faut bosser comme des ouf.
Mais c'est justement ce que disait un peu Christophe Balestra dans l'interview
d'Activé.
Il disait on avait des vues différentes de Andy Gavin et Jason Rubin, ils avaient les leurs, nous on a les nôtres, l'air de dire, bah voilà, ils ont passé le flambeau, quoi.
Mais c'est exactement ce qu'ils ont
fait. Ils en pouvaient plus, peut-être, quelque part. Et puis, ils avaient été au bout du bout de ce qu'ils voulaient faire.
Mais c'est ce qu'ils disaient, en tous les cas, à l'époque. C'est que, voilà, ils ont fait plus ou moins le tour. Ils ont réussi, voilà. Brillamment, réussi à faire ce qu'ils voulaient faire
exactement,
depuis toujours.
Quand t'as réussi comme ça, bah voilà, qu'est-ce que tu peux faire d'autre, quoi.
Donc, après, je pense maintenant qu'ils se prennent pas la tête, quoi. Ils sont lancés sur des trucs, voilà, qu'ils ont envie de faire comme ça pour rigoler, pour déconner un peu. Ils sont plus ou moins tranquilles, quoi, maintenant. Donc.
Alors, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'effectivement, après le départ de Jason Rubin et Andy Gavin en 2004, bah, Naughty Dog a quand même poursuivi sur sa lancée, hein, et de plus belle, puisque en 2005, il y a Jack X qui est sorti. Alors, c'est assez amusant de voir qu'à chaque fin de série, en gros. Enfin, on ne sait pas.
Jack on sait pas, ça pourrait revenir.
Peut-être revenir, mais bon. Et ben, ils aiment bien utiliser la voiture. Parce que là, c'est pareil, c'est des courses un peu folles dingues.
Ça marque la fin de l'époque, en fait, et de la saga. Et du coup, ben voilà, Jack X.
Et c'est toujours aussi...
Je ne sais pas si c'est une référence à Jack X, en fait. Je viens de penser à ça, là.
Je ne pense pas.
Je ne suis pas sûr.
Je ne pense pas.
Le célèbre coureur automobile, comme vous savez.
On leur posera la question.
Qui a fait perdre la course à Ayrton Senna en 1984 à Monaco.
Oh merde. On l'a lancé.
Ça, j'en voudrais toute ma vie.
On a ouvert la porte de Pandore.
Exact.
C'est amusant parce qu'à chaque fois, finalement, c'est leur transition qui leur sert peut-être aussi pour commencer les développements plus lourds sur une nouvelle plateforme. De tester de la technologie, de laisser du temps à une partie de l'équipe.
C'est effectivement très important dans l'histoire de ce studio. C'est à chaque transition de passer le temps nécessaire avant de commencer à développer vraiment une nouvelle franchise. Ce qu'ils ont fait à chaque nouvelle génération, de passer du temps à développer la technologie, à maîtriser un petit peu un minimum la plateforme pour être sûr d'arriver avec un truc qui déboîte bien. Et ils ont fait la même chose avec Uncharted 1 et Uncharted 2, bien sûr. Aujourd'hui, le studio Naughty Dog, en plus de gérer cette licence Uncharted, il faut savoir que pour Sony, c'est donc un studio très important qui développe beaucoup de technologies, qui est partagé avec les autres studios, Santa Monica, qui fait God of War 3, les gens qui ont fait Infamous aussi, Sucker Punch, et beaucoup d'autres studios. Voilà, il y a une équipe en fait qui est hébergée chez Naughty Dog, qui s'appelle l'ICE Team, et qui développe beaucoup d'outils et de code spécifiquement pour la PlayStation 3 et pour Sony, pour les studios Sony. Donc ça finance aussi une partie du studio. Parce que ils bossent là-dessus. Sony utilise cette technologie et la partage avec ses autres studios, et donc. Naughty Dog, c'est au-delà des licences et des jeux, c'est aussi une boîte qui est très très importante pour l'histoire de la PlayStation 3 et des autres PlayStation en termes de technologie. C'est un peu des dieux vivants quand même.
C'est des pionniers, oui, des leaders là, à ce niveau-là.
C'est-à-dire que t'as des teams d'aide chez Sony, tu vois, c'est des QA ou des teams comme ça qui vont chez les studios pour essayer de leur filer des coups de main quand il y a des problématiques, leur expliquer comment il faudrait plutôt faire comme ça. Et ces gens-là, quand ils vont chez Naughty Dog, en général, ils reviennent et ils ont appris des trucs plutôt que d'apprendre des trucs, quoi. Donc c'est un studio qui est vraiment
très respecté.
Mais c'est vrai que c'est très étonnant quand on fait le parallèle avec les studios japonais. Bon, il y en a qui maîtrisent bien la PS3, évidemment, mais eux, on a l'impression qu'ils sont encore un cran au-dessus, quoi.
Ils sont
maîtrisés beaucoup plus vite que les autres.
Ils sont aussi très nombreux. Hein. C'est des équipes de plus de 100 personnes à chaque fois.
On en parlait pour le truc du TGS.
Ouais, le problème de management des Japonais qui réduit un petit peu les équipes, exactement, et qui leur pose quelques soucis. Ouais. Mais alors, partons maintenant sur la saga Uncharted, parce que le jeu Uncharted 2 sort aujourd'hui.
Achetez-le
Uncharted, le premier, Drake's Fortune, il s'est écoulé à peu près 2,2 millions d'exemplaires dans le monde. C'est donc un beau succès, en tout cas le jeu a eu un beau succès critique aussi. Mais c'est vrai que c'est pas un carton comme on aurait pu l'imaginer, et en tout cas pas à la hauteur d'un Crash Bandicoot quasiment 11 ans avant. Le parc installé de machines n'est pas le même non plus,
non.
Ça c'est une certitude.
Ça joue pas mal, hein.
Mais c'est aussi un gros changement dans l'état d'esprit et dans le développement chez Naughty Dog, puisqu'on quitte l'univers un peu cartoon pour arriver à quelque chose de beaucoup plus réaliste, de beaucoup plus mature et de beaucoup plus narratif aussi.
Ouais, mais c'est en partie lié aussi donc au changement
d'homme
évidemment, puisque maintenant que Jason et Andy ont cédé le flambeau et ont passé ça à Evan Wells et Christophe Balestra, qui étaient déjà évidemment dans l'équipe avant, hein, ils sont pas venus de l'extérieur, ce sont des gens qui ont déjà travaillé sur les jeux Naughty Dog et qui travaillaient au studio avant que Jason et Andy partent. Ils avaient probablement eux envie aussi d'imposer un peu leurs pattes, quoi, enfin de faire quelque chose qui leur corresponde plus ou qui corresponde plus à l'envie. Et puis comme l'expliquait Christophe aussi, je sais plus si c'était off ou pendant l'interview, je me souviens plus bien, mais il nous expliquait aussi que l'avantage quand tu fais des jeux un petit peu enfantins dans le design, c'est que c'est plus facile technologiquement sur des plateformes qui peuvent pas gérer des images forcément ultra réalistes comme maintenant. Et donc c'était aussi le bon moment avec la PlayStation 3 et l'image HD, etc., pour passer à des univers plus réalistes avec un héros plus réaliste, un narratif plus réaliste, et en fait tout après coule de source, quoi. C'est que quand t'es parti dans cette optique là avec cette machine là ils sont allés à fond dans le truc. Et effectivement, le jeu lui-même, en fait, quand il réfléchit bien, ça, c'est pas forcément un... Comment dire, très 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 loin de ce qu'ils ont fait avant. Ça reste centré énormément sur l'animation en termes de technologie, parce que c'est peut-être un des jeux les mieux animés de cette génération. Quand tu vois comment Drake bouge dans le premier et dans le deuxième encore plus, la façon dont il réagit à ce qui se passe à l'extérieur, etc., dont les animations sont liées les unes aux autres et tout ça, ça reste encore une des grosses forces du studio. Et puis au-delà de ça, après l'arrivée de la narration avec d'autres personnes aussi qui sont rentrées au studio la suite, comme Amy Hennig, qui est l'actuel creative director et qui vient elle de Crystal Dynamics avant, qui a fait tous les Legacy of Kain depuis Soul River jusqu'à Defiance. Donc oui, ouais, enfin je pense que c'est le changement d'équipe aussi et le changement de plateforme, les deux, qui ont fait que Naughty Dog est passé à Uncharted. Voilà.
Comment vous imaginez un petit peu la suite justement de ce studio? On a vu très récemment dans une interview que
la suite d'Uncharted était
Evan Wells
d'ores et déjà prévue.
Oui, c'est en tout cas.
Bon, la première chose, ça va être les DLC, hein, d'après ce que dit Christophe. Ouais. De toute façon, ça, il l'a déjà annoncé. Il va y avoir des trucs pour le multijoueur d'Uncharted 2. J'imagine jusqu'au premier trimestre. Ils vont probablement ensuite peut-être chercher un petit peu de tech, je sais pas. Mais
alors justement, interview d'Evan Wells, interview qui a été donnée aux États-Unis. Où il montre très clairement que Jack and Dexter pourrait peut-être revenir ou que ce serait intéressant de voir Uncharted peut-être s'épanouir sur d'autres styles de plateforme, alors peut-être portable, peut-être la PSP.
Peut-être.
Quand on voit le push que Sony est en train de faire au niveau de la PSP avec les arrivées d'un Gran Turismo, l'arrivée d'un Resident Evil, l'arrivée d'un
Motor Storm,
l'arrivée d'un Assassin's Creed, vraiment le relancement finalement, le relaunch de la PSP, peut-être qu'un Uncharted ferait du bien aussi.
Ah bah sur PSP oui, et puis il y a sous cet historique déjà d'autres studios qui reprennent les licences de certains studios pour les adapter à la PSP. Je pense donc de nouveau à Radiadon qui a fait Dexter sur PSP, qui a fait God of War sur PSP, qui sont pas des licences qu'ils ont développées eux mais qu'ils ont récupérées pour faire des épisodes à part entière par contre, et pas seulement des adaptations mais des nouvelles histoires et des vrais jeux à part entière.
Très sympa d'ailleurs Dexter PSP.
Ah il est super bien, sympa. God of War aussi d'ailleurs, Radiadon est un très bon studio en tous les cas sur PSP. Par contre ce qu'on sait évidemment c'est que Radiadon pour l'instant en tous les cas a plusieurs projets. Deux officiellement et un qui est forcément next gen.
Voilà, et puis avec vraiment un nouveau personnage, une nouvelle IP, comme on dit.
Leur propre IP, voilà, c'est ce qu'ils veulent faire maintenant.
Nouvelle
mais série. Ça veut pas dire pour autant qu'ils seraient pas en mesure de faire un épisode d'Uncharted sur PSP, on sait pas trop. Hein. Ils ont fait aussi Okami.
Ils s'entendent bien.
Ils s'entendent un peu très bien.
Oui, très bien. Pour ceux qui l'auraient pas vu d'ailleurs, franchement, on vous invite à aller écouter, regarder la Gameblog TV rencontre entre Naughty Dog et Radiadon avec nous à Los Angeles, c'était il y a quelques mois maintenant, mais c'est vrai qu'entendre des développeurs s'exprimer comme ça librement et surtout avec le cœur sur parfois leurs problèmes, hein, comment ça a commencé, mais aussi vraiment avec passion à chaque fois, ça fait vraiment du bien et on sent que ce sont deux équipes en tout cas qui ont vraiment envie d'apporter du positif, du bien aux médias jeux vidéo, et ça c'est quand même à souligner.
Ouais, et puis il y a une véritable entraide.
Ils sont contents les uns pour les autres, et ça déjà c'est énorme.
Ouais, c'est vrai, ils sont contents du succès des uns et du succès des autres, et il n'y a pas forcément de limite. Mais bon, évidemment, donc Radiadon, on l'a déjà dit tout à l'heure, a été cofondé par Didier Malenfant, qui est un ex de Naughty Dog, donc c'est aussi ça fait partie du truc, quoi. Ils sont pas très loin, un jet de pierre en bagnole.
Alors ça pourrait peut-être changer, parce que justement on a appris aussi que Naughty Dog grossit toujours plus,
apparemment,
et pourrait même encore déménager, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais ils avaient déménagé, ils étaient
à l'époque de Crash, ils étaient sur sur la Third Promenade
qui a un lieu
à Santa
assez
Monica.
Sympathique.
Les studios étaient mortels, tu y étais aussi toi. Et c'était la Third Promenade à Los Angeles, c'est un endroit, c'est là où il y a l'Apple Store, un endroit piéton un peu de
j'avais
envie,
c'est ça.
Ouais, c'est ça, un peu boutique de luxe,
un peu bobo, un peu sympa, avec de la musique, des gens qui chantent, qui dansent dans la rue, des petits restaurants.
Et eux, ils avaient leur studio donc juste là, un peu planqué, avec une petite entrée dérobée devant un espèce de stand à pizza et à trucs, et avec une terrasse qui donnait sur la promenade. Et là, ils ont déménagé depuis pour faire Uncharted. Ils avaient besoin de beaucoup, beaucoup plus de place pour une bien plus grosse équipe. Et apparemment, ils vont encore déménager là pour accueillir plus de personnes. Donc, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont se faire.
C'est qu'il y a des projets, évidemment. Mais je pense qu'ils ne s'arrêteront pas de sitôt sur Uncharted, en tout cas. C'est
tu
une
crois
trop belle licence pour laisser tomber comme ça. Et puis comme ils avaient l'air de dire, ils ont encore plein de choses à dire, à faire.
Ah oui, ils peuvent raconter
de l'histoire, ouais, etc. Quoi.
Ça, c'est Amy qui disait ça, effectivement, c'est que Drake a encore voilà, plein d'histoires à vivre et il est loin d'être, de s'arrêter là. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ce sera Naughty Dog qui le fera et
oui,
que ce sera sur PS3.
Ça, après, ils peuvent. Moi, ouais, je pense qu'on aura, à mon avis, un autre épisode sur PS3.
Je pense aussi.
Vu que là, ils ont tellement bien maîtrisé la technologie, etc., ils peuvent la reprendre, à mon avis, assez facilement.
Oh, t'inquiète, ils n'auront pas envie juste de la reprendre.
Oui, non,
ils vont
l'améliorer,
encore trouver des trucs.
Alors là, franchement, je vois pas trop comment ils vont pouvoir
comme
faire.
Comme le premier,
parce que là,
mais
déjà,
ils ont atteint un certain niveau. Ouais, ouais. C'est vrai que là, techniquement, c'est déjà très fort.
C'est bluffant. Enfin, sur PS3, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Quoi.
Mais
c'est incroyable.
C'est vrai que pour prolonger un petit peu la série d'interviews qu'on vous a offert sur Gameblog.fr avec Christophe Balestra, donc le co-président de Naughty Dog, c'est vrai qu'ils ont une vraie volonté de faire monter le média. Et ce, à tous les niveaux, sur la finition même des jeux, la manière aussi de les marketer quelque part et de faire parler de leurs jeux, ils ont des vrais messages à envoyer et c'est vrai que c'est très important et ça se ressent vraiment sur le côté équipe.
Oui.
Aussi. Chez Naughty Dog, ça jamais, bien sûr, on vous en a parlé pendant ce podcast, Jason Rubin, Andy Gavin, les deux créateurs initiaux, c'est sûr, mais eux-mêmes à l'époque parlaient déjà de leurs dogs, donc de l'équipe même, et aujourd'hui, par exemple, dans la bouche de Christophe Balestra, c'est excessivement présent, et c'est pas Christophe Balestra présente, ou d'autres.
Oh, la vieille
comptes.
Référence à Bonnel.
Ah, ouais, c'est ça, voilà, ou Evan Wells présente, voilà, mais c'est vraiment une équipe, c'est Naughty Dog, et ça, c'est vraiment aussi un autre état d'esprit que par rapport à d'autres développeurs français, par exemple.
Ah bah c'est sûr que c'est moins courant d'entendre d'autres développeurs qui sont sur le devant de la scène, dirons-nous.
Ils se mettent un peu plus en avant, par la faute des médias aussi, quelque part. Hein.
Ouais, mais ça empêche pas des gars comme Balestra de toujours répéter « Ouais, mais non, attendez, les gars, c'est un travail d'équipe, il y a X personnes derrière, ils ont tous bossé comme des oufs, c'est tous des mecs brillants et machin. »
Ah oui, ça, on peut le croire, il n'y a pas de problème.
Ah oui, c'est clair, c'est vraiment très important. Ouais.
Mais est-ce que justement Sony... c'est pas un peu leur vitrine quand même, Naughty Dog?
Ah bien sûr,
ils doivent pousser un maximum.
Si c'est pas une vitrine, je sais pas quoi faire de plus, hein, parce que là...
Mais c'est pas seulement une vitrine, c'est là où c'est bien, c'est que c'est pas seulement un jeu qui déboîte techniquement et qui montre que la PS3 en a sous le capot. C'est un vrai jeu qui est pas fondamentalement original, ça reste un jeu d'action aventure,
tout à fait, ouais.
mais qui est tellement mieux fait que la plupart des jeux de sa catégorie en termes de narration, en termes de rythme, en termes d'idées, en termes de plein de choses. Bah oui, c'est une leçon pour tous les game designers du monde.
Clairement. Et bah justement, pour conclure ce podcast dédié à la saga Naughty Dog, pour ceux qui n'auraient pas lu le test ou ceux qui auraient peu de temps et ceux qui sont peut-être là actuellement dans le métro, dans le bus ou quoi que ce soit et qui donc se disent bon bah qu'est-ce que j'ai à faire pour les 10 prochaines minutes, est-ce que vraiment tu pourrais nous faire succinctement et bien évidemment sans spoiler, le jeu sort aujourd'hui, Uncharted 2, une sorte de petit récapitulatif de ce qui toi te paraît les choses essentielles, fortes et qui font que justement ce Uncharted 2 sort du lot alors que dans l'absolu c'est un jeu d'action.
Ouais, alors déjà ce qu'il faut dire c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir fait le premier pour vous lancer dans le deuxième. Il y a pas, bon évidemment il y a des vannes qui font référence au premier dans le deuxième et tu les comprendras et tu en rigoleras si t'as fait le premier, mais si t'as pas fait le premier tu peux déjà te lancer dans le deuxième sans rien rater quoi. Il y a pas de choses qu'on va pas comprendre sans avoir fait le premier. Après, les forces du deuxième, j'ai un petit peu envie de vous dire que c'est les mêmes forces que le premier, mais vraiment poussées à leur paroxysme au-delà, de très loin de ce qu'on pouvait attendre. Et on entendait beaucoup quand même. Enfin, c'est extrêmement rare qu'un jeu aussi attendu surpasse
les attentes
qu'on place en lui. Quoi. Et c'est la force de cet Uncharted 2, et c'est une force qu'il doit essentiellement à sa narration. Voilà.
Moi, je me rappelle dans la Gameblog TV d'impression, la première fois où tu nous en as parlé.
J'arrivais même pas à parler tellement.
Ouais, c'est ça. Et
j'en sortais
disais,
à peine.
Alors, bon, bah là, t'as une scène culte, puis bah juste après, t'enchaînes avec une scène culte.
C'est ça.
Et,
c'est un enchaînement.
C'est vrai
de scène culte.
On te l'entend pas dire tout le temps, et que là, voir les étoiles qu'il y avait dans tes yeux, t'as visiblement vécu quelque chose de vraiment impressionnant.
Ah ben oui, mais c'est alors.
Surtout que ça démarre très très fort.
Mais
quoi.
Je veux
y a pas
voilà.
De temps
Non, ça démarre tout de suite. Machin, mais je veux évidemment pas spoiler toutes les scènes. C'est pour ça aussi peut-être que.
On peut pas dire grand chose en fait.
Que le test lui-même, quand vous le lirez, ne vous donnera pas beaucoup de détails sur ce que vous allez trouver vraiment dans le jeu, parce qu'il faut pas. Je veux vraiment pas les spoiler. Mm-hmm. Mais c'est quand même un des seuls jeux de mémoire que j'ai eu envie de refaire immédiatement après le générique. De fin quoi. C'était
ça c'est fort quand même parce
ouais,
que
c'est...
il est assez long en plus hein, donc
ouais il est beaucoup plus long que le premier donc ça reste la même formule. Il y a du tir, il y a de l'exploration, il y a de la plateforme évidemment,
il y a des femmes, il y a des mecs,
il y a des puzzles plus que dans le premier
là, c'est mieux équilibré que dans le premier parce que c'est vrai que c'était beaucoup de scènes de flingade
ouais. ça reste on va dire 65-70% 10% d'action et de tir, mais avec une telle variété dans les scènes, les situations et ce narratif haletant qui ne s'arrête jamais, où il se passe toujours un truc, t'as pas l'impression de faire deux fois la même chose. Alors que dans le premier, ça pouvait arriver. T'avais l'impression que en fait, chaque scène de fusillade était une reproduction un petit peu plus ou moins de celle d'avant.
Surtout qu'il y avait les ennemis infinis, donc.
Ouais.
Forcément, ça contribuait aussi à.
Tous ces trucs-là ont été corrigés dans le second. Voilà. Et c'est hyper varié. Enfin, je voudrais bien vous donner des exemples, mais il y a vraiment des situations.
Rien que la scène du train, déjà, voilà quoi.
Ouais, bon, évidemment. Ou
du wagon, du train, enfin, ça dépend, vous verrez.
Ouais, enfin celle du
train. C'est ce qu'on voit dans le trailer, on va dire.
Tout ça.
Ouais, mais enfin, pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos.
Pas trop regardé, ouais, on va essayer voilà.
Et même en regardant les trailers, on sait, après y avoir joué, nous, enfin moi j'ai joué un tout petit peu, que c'est pas forcément ce qu'on croit, etc. Ça c'est génial quoi.
Ouais, alors le scénar objectivement n'a rien d'exceptionnel, hein. C'est pas une histoire révolutionnaire et tout, mais la façon dont elle est racontée, voilà, c'est toute la mise en scène, qu'elle soit dynamique, c'est-à-dire dans le jeu pendant que tu contrôles Drake, ou avec plein de petites cinématiques qui ont l'avantage de pas être trop longues aussi, et ça c'est vachement bien, c'est que elles sont vraiment là pour donner un rythme à l'histoire et bien couler les scènes de gameplay entre elles.
Et
parce que tu passes de l'infiltration.
Une heure et demie, c'est ça, une heure et demie de cinématique.
Il y a 90 minutes de cinématique.
Ouais,
quoi, c'est
ce que me disait Christophe, qu'il a eu l'impression d'avoir bouclé un film.
Oui, parce qu'il y a le multi aussi. Et le multi est très très réussi aussi, il faut le dire. Parce que souvent, t'as toujours cette crainte de te dire ah oh merde, ils vont faire du multi, ça va poser des problèmes pour le solo. Pas du tout. Hein. Vraiment, le solo est exceptionnel. Le multi est très bien aussi. Il va être suivi, c'est sûr. Parce que le multi, et c'est là où c'est fort, il reprend exactement toutes les animations et les possibilités du solo. Donc quand tu es en train de monter sur une échelle et qu'il y a un mec qui est au-dessus, tu peux l'attraper, le faire valdinguer, faire ses mêmes sauts, se rattraper un peu partout, avec une vraie verticalité dans les maps en multi, qui offre un gameplay toujours action, hein, avec des modes de jeu relativement classiques, qui vont du deathmatch à l'équivalent du capture the flag, sauf que c'est un trésor, mais bon. Mais avec tellement de possibilités qui sont les mêmes que celles du solo, que c'est vraiment. C'est jouissif quoi, de jouer contre des.
Et surtout, on a l'impression de pouvoir tout faire, se faire tout ce qu'on veut quoi.
Ouais.
Il y a tellement d'animations contextuelles que, quel que soit le décor que tu vois, tu peux y aller, tu peux grimper là, machin. Enfin, c'est vraiment. Sacrée prouesse technique.
De A à Z. Alors, on pourrait. Juste pour éviter d'être complètement. On pourrait, si on voulait vraiment, vraiment couper les cheveux.
Allez,
en cartes.
C'est bémol.
C'est vraiment.
Tes cheveux,
voilà, c'est ça, c'est mon truc en ce moment. Je coupe
tes cheveux. Non, donc, pas un poil dans la main.
Donc, on va dire que le dernier tiers est un peu moins bien rythmé que le début. Mais
un peu moins bien d'un truc qui fait
qui est tellement
extraordinaire, qui est déjà très 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 haut, c'est pas très grave.
Quand tu décroches pas du début jusqu'à la fin, t'en prends vraiment plein ta gueule, comme Nathan dans l'aventure, qui prend vraiment plein sa gueule. Ouais. C'est blindé d'humour aussi.
C'est côté Indiana Jones aussi d'ailleurs.
Ben ouais, ah ouais, complètement. Ouais. Et c'est drôle. Tant tu te marres quoi. C'est-à-dire que je l'ai écrit d'ailleurs. Quand t'as pas la mâchoire décrochée parce que tu vois et ce que tu joues à l'écran, c'est parce que t'es en train de te marrer.
Ou alors t'as un problème.
Ouais.
D'ailleurs, toi tu l'as fait essentiellement en VO en anglais.
Ouais, j'ai commencé la première partie en français juste pour voir la qualité des doublages.
C'est pas mal
les
doublages,
correct.
Hein. Moi j'aime bien.
Ils sont corrects, mais c'est quand même mieux en VO. Et comme c'est un Blu-ray, vous avez l'avantage de pouvoir choisir dans le menu voilà, en VO. Ça reste que, pour ceux qui peuvent, prenez-le en VO avec les sous-titres. Vous pouvez activer les sous-titres soit en VO, soit en français aussi séparément.
Une option toute simple à laquelle beaucoup de jeux ne pensent pas. Quoi. Je trouve ça hallucinant. Tu changes les settings de la console sur certains jeux, il est en VO.
C'est d'autant plus con effectivement que c'est sur le disque.
Bah ouais, tout est sur le disque.
C'est complètement con.
Donc voilà.
Bon là profitez-en donc, pour ceux qui aiment les expériences en VO, parce que c'est une vraie expérience cinématographique aussi. Donc si vous mettez vos films en VOST, bah faites pareil avec Uncharted, ça vaut le coup.
D'ailleurs c'est l'idée de la publicité américaine hein, avec la nana qui croit que c'est un film, etc. C'est assez bien
ça,
vu.
C'est balèze.
C'est bien débile aussi. Bah voilà, vous l'aurez compris en tout cas pour nous, Uncharted 2, c'est vraiment une sorte de vrai coup de cœur. On vous en parle depuis longtemps. Et puis c'est aussi la confiance que Naughty Dog nous a confiée. De pouvoir avoir ce test en avant-première et puis ces interviews avec Christophe Balestra, ça nous a vraiment fait plaisir parce que c'est vraiment un titre qu'on a suivi de près et on est heureux de voir qu'on s'est pas trompé vraiment. Donc on vous invite vraiment, si vous avez une PS3, à vous ruer sur ce Uncharted 2 qui vous promet de bien bons moments de jeu et quelque part ça fait plaisir.
Ouais. Et puis pour la suite des aventures de Naughty Dog, on va évidemment rester à l'écoute, essayer de savoir un peu ce qu'ils ont dans leur carton au-delà des DLC. Alors évidemment, il y a déjà des rumeurs qui parlent de Jack. Au festival du jeu vidéo, des gens lui ont posé la question à Christophe parce qu'il était là pour le festival. Ils ont dit qu'ils aimeraient bien voir en tous les cas un Jack sur PS3.
Mais d'abord qu'ils allaient se reposer un peu parce que ça a bien travaillé.
C'est important, comme tu le disais tout à l'heure. Il faut savoir se ressourcer.
Exactement.
Aussi pour repartir.
Donc on verra dans les mois à venir. Et qui va se passer pour
peut-être que déménagement égale deux équipes au lieu d'une. une sur Uncharted 3 et un Jack 4.
Je sais pas.
On verra bien.
La boîte a toujours fait un seul jeu, c'est aussi ce qui fait sa force, c'est toujours un seul jeu.
Concentré. En tout cas, on attend la suite. Enfin, on attend leurs prochaines aventures. Avec envie.
Bon, en tout cas, vous aurez compris que les 20 premières années de vie de Naughty Dog ont été particulièrement riches, bien remplies. Bah, on espère pouvoir suivre les 20 prochaines avec autant d'envie et autant de bons jeux surtout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette saga Naughty Dog. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec un nouveau podcast. Ça changera complètement d'univers, hein, vous verrez. Un nouveau podcast. D'ici là, bah, si vous avez des bons souvenirs avec des Crash Bandicoot, avec des Jack ou même avec Uncharted, bah, n'hésitez pas à commenter dans les forums. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao, ciao.
Salut.